Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 21e épisode.
Les femmes dans la cité. Voilà l'objet de cette dernière semaine consacrée à l'histoire des femmes. Les femmes aux prises avec l'espace et le temps, avec les événements, les guerres, la politique, qui leur fut si longtemps fermée. Les femmes dans l'action collective, notamment le féminisme si divers, forme essentielle de l'action contemporaine des femmes, les unes et les autres, les femmes et le monde. Sujet que nous ne ferons qu'effleurer, tant ils sont vastes et divers. Mais d'abord l'espace, les femmes dans l'espace. Au premier abord, les femmes semblent confinées. La sédentarité est une vertu féminine, un devoir des femmes lié à la terre, à la famille, au foyer. Pénélope, les Vestales, figurent les antiques modèles des femmes, celles qui attendent et gardent. Pour Kant, la femme est la maison. Les formes d'enfermement, du moins de clôture des femmes, sont innombrables. Le harem, la chambre des dames du château féodal, pensez à Jeanne Bourin, le couvent, la maison victorienne, la maison close. Il faut protéger les femmes, cacher leur séduction, les voiler. Une femme en public est toujours déplacée, dit Pythagore. Toute femme qui se montre se déshonore, écrit Rousseau à D'Alembert. Ce que l'on redoute, les femmes en public, les femmes en mouvement et la dissymétrie du vocabulaire illustre ses défiances. Homme public, c'est l'honneur. Femme publique, c'est la honte. L'aventurier est le héros des temps modernes. L'aventurière, une inquiétante créature. Le soupçon pèse sur les déplacements des femmes, notamment des femmes seules. Certains hôtels, au XIXe siècle, soucieux de leur respectabilité, les refusait. Flora Tristan, qui fut une grande voyageuse lors de son tour de France, en fait la pénible expérience dans le Midi. Après cela, elle préconise la création de foyers pour, dit-elle, faire bon accueil aux femmes étrangères, titre d'un opuscule qu'elle publie en 1835. Et pourtant, elles bougent, les femmes. Elles sortent, elle voyage, elle migre, elle participe à la mobilité qui les moyens de transport aidants s'est emparée des populations occidentales au XIXe et XXe siècle. Moins que les hommes, sans doute, mais tout de même. D'abord, elles sont partie prenante de l'exode rural. Avant de faire venir leurs épouses à Paris, les maçons du Limousin emmènent des femmes de leur village pour leur faire la cuisine. Elles cantinent, rue de Lappe, dans les logements qu'ils occupent. Les familles paysannes, on l'a vu, placent leurs filles comme servantes, ouvrières ou domestiques urbaines. Placées, elles sont sous contrôle. Mais elles s'échappent, changent de place, conquièrent leur liberté. Chambrières ou bonnes, elles quittent leur maîtresse. Couturière, elle change d'atelier. Jeanne Bouvier, couturière, montée à Paris avec sa mère en 1879, est d'une surprenante mobilité, tout comme Adélaïde Pop, sa consœur autrichienne. Ces jeunes ouvrières pratiquent un turnover, c'est-à-dire une mobilité très, très masculine. Hors du commun, il est vrai, l'une et l'autre, devenues syndicalistes, ont laissé des autobiographies assez exceptionnelles qui donnent du mouvement et des villes un aspect très positif. La ville, représentée comme la perdition des filles et des femmes, leur permet souvent de s'affranchir de tutelles familiales pesantes, d'un horizon villageois sans avenir, de connaître de modestes ascensions sociales, d'échapper à des unions arrangées, de faire des mariages d'amour. La ville, c'est le risque, l'aventure, mais aussi l'ouverture du destin, c'est l'échappée belle. Autre figure de migrante du travail, les gouvernantes, Miss, Fraulein, Mademoiselle. Issues d'une bourgeoisie désargentée, cultivée, souvent protestante, ces jeunes préceptrices ou demoiselles de compagnie, lettrées et bien élevées que les romans présentent souvent d'ailleurs comme des intrigantes, circulent à travers toute l'Europe. Henriette Renan réside plusieurs années en Pologne pour gagner l'argent nécessaire aux études de son frère Ernest. À l'inverse, les Russes viennent à Paris comme Nina Berberova, qui amasse des trésors d'observation pour son œuvre future de romancière. Les plus mobiles sont les Juives, chassées par les pogroms et qui gagnent leur vie comme elles peuvent en poursuivant leurs études à Londres, Zurich, Paris ou New York. Ces jeunes femmes avaient des objectifs. « Je ne veux pas seulement le travail et l'argent, je veux la liberté », disait une migrante juive arrivant à New York. Et les mémoires d'Emma Goldman sont un récit exemplaire du voyage comme moyen d'émancipation. L'émigration plus massive du XIXe siècle sont d'abord sexuellement dissymétriques. Les hommes partent seuls ou en avant-garde. Les femmes les rejoignent parfois ou jamais. L'arrivée des femmes est d'ailleurs un signe d'émigration définitive. Or, le regroupement familial progresse au XXe siècle. Les femmes maintiennent les traditions, la langue maternelle, la cuisine, les habitudes de piété. En Lorraine, dans les mines et la métallurgie, les Italiennes conservent les pratiques du Piémont, comme les Siciliennes le font à New York dans le quartier de Little Italy. Les Juives un peu partout dans le monde, au sein de la diaspora, les Portugaises ou les Maghrébines dans la France d'aujourd'hui. À la seconde génération, les filles sont souvent des facteurs d'intégration décisifs. Elles aspirent à l'égalité et à la modernité. Entre intérieur et extérieur, dedans et dehors, les femmes des migrations, écartelées parfois entre des tensions contradictoires, jouent un rôle important. Le Centre d'histoire des migrations va bientôt s'ouvrir. Il est en voie d'installation à la Porte Dorée dans l'ancien musée d'Outre-mer et il devrait faire aux femmes la place qui leur revient. Il y a d'ailleurs un projet d'exposition qui devrait venir assez rapidement dans les années 2010 par exemple. Enfin, des femmes ont voyagé à toutes les époques et pour toutes sortes de raisons, de manière généralement moins gratuite, moins aventureuse que les hommes, parce que il leur fallait davantage de justification, d'encadrement ou de soutien. Voici quelques-unes de ces voyageuses. Nathalie Zemon-Davis, dans « Trois femmes en marge » au XVIIe siècle, raconte l'histoire de Maria Sibylla Merianne, protestante d'origine allemande, d'une famille très cultivée de peintres et de graveurs. Elle avait d'ailleurs adhéré à une secte protestante dissidente à Amsterdam. Mais de là, elle partit au Suriname, c'est-à-dire en Guyane hollandaise, non pas pour y prêcher, mais pour y observer et peindre les insectes, qui étaient sa passion d'entomologiste. Elle vivait, raconte-t-elle, dans un bourdonnement ininterrompu d'insectes. Elle publia deux livres sur les chenilles, dont « Les métamorphoses » en 1679 et un autre un peu plus tard, et c'était ça, les métamorphoses des insectes qui la fascinaient. Elle y mit des illustrations d'une très grande précision, et tout cela valut à Maria Sibylla, Merianne, une solide réputation, non seulement d'artiste, mais de femme de science. Pourtant, elle n'avait bénéficié que de peu de soutien. On doutait qu'une femme seule puisse faire quelque chose de sérieux. Dans son livre, Nathalie Zemon-Davis raconte l'histoire parallèle de Marie Martin, née à Tours, à la fin du XVIIe, et qui, devenue veuve, se fit religieuse chez les Ursulines et partit évangéliser les sauvages de Nouvelle-France, c'est-à-dire du Canada, pour lesquels elle a pris l'Algonquin. Beaucoup de femmes furent ainsi attirées par les missions, catholiques ou protestantes, dans le sillage de l'expansion coloniale. Elles légitimaient ainsi leur désir de dévouement et de voyage. Un certain nombre, au XIXe, s'engagèrent dans d'autres types de missions, par exemple les missions des Saint-Simoniens, socialistes actifs et relativement égalitaires. Les femmes saint-simoniennes partaient prêcher la bonne parole, par exemple Flora Tristan en France, en 1844, entreprend un tour de France pour convaincre les ouvriers de s'unir, de former une espèce de syndicat, en quelque sorte. Ce voyage, elle le fit dans des conditions difficiles. Il lui fut d'ailleurs fatal. Et pourtant, elle avait voyagé au Pérou, elle avait été à Londres, sur lequel elle avait écrit « Promenade dans Londres », très intéressant récit de voyage paru en 1840. Eh bien, Flora Tristan mourut dans un hôtel à Bordeaux en 1846 au cours de ce Tour de France. Comme 60 ans plus tard, Louise Michel, morte au cours d'une tournée de conférences à Marseille, on le voit, les voyages militants étaient une épreuve. Découverte était tout aussi difficile. Il fallait braver l'opinion, avoir des moyens. Il attira au XIXe siècle un certain nombre de femmes libres, comme George Sand, par exemple, qui voyait dans le voyage un moyen d'affranchissement jusque dans le costume. Elle s'habille en homme, évidemment, à ce moment-là. Tant qu'il y aura de l'espace devant nous, il y aura de l'espérance, disait-elle, et elle découvrit l'Italie avec Musset, les Alpes avec Liszt et Marie Dagou, l'Espagne avec Chopin. Son totem, c'était l'oiseau, et le voyageur était son porte-parole. Les lettres d'un voyageur sont parmi ses plus beaux textes. George Sand s'inscrit dans cette longue suite de femmes voyageuses qui voulaient voyager pour découvrir le monde. Le tourisme donnera plus tard à des femmes fortunées la possibilité d'élargir leur horizon. Anglaises, américaines, à la fin du XIXe siècle, hantent l'Italie et ses musées, le Baedeker à la main. Certaines familles pratiquaient le grand tour, forme de voyage éducatif et initiatique pour les filles comme pour les garçons. C'est grâce à son père que Marguerite Yourcenar, la grande romancière et première femme à entrer à l'Académie française, a fait comme ça un tour d'Europe. Elle suivait son père qui voulait l'initier au monde. Le vrai voyage, tel que le pratiquèrent Isabelle Eberhardt ou Alexandra David Neal, était forcément plus rare. Isabelle était russe, fille illégitime d'une aristocrate exilée en Suisse, où elle avait poursuivi d'abord des études de médecine. Et ce sont les chroniques de sa compatriote, une autre russe, Lydia Pashkov, dans Le Tour du Monde, qui lui avait donné le désir d'Orient, le désir de découvrir la Syrie, la Palestine, les ruines de Palmyre. Séduite par l'islam, elle se convertit à l'islam. Et même, elle part guerroyer en Afrique du Nord aux côtés de tribus dissidentes sous les traits de Mahmoud, un jeune homme rebelle qui a fasciné Lyautey. Elle est morte à 27 ans, laissant une œuvre inédite vouée aux pauvres du Maghreb, cette œuvre qu'Edmond Charleroux a en partie publiée dans Isabelle Eberhardt, un désir d'Orient. Autre exemple, Alexandra David Nell. 1868-1969, elle a vécu centenaire. Elle était orientaliste et elle avait d'abord découvert le bouddhisme dans les bibliothèques. Et elle décida de partir pour le Tibet et elle l'explora durant 30 ans, allant de Lamassri en Lamassri, escortée de ses porteurs. Son mari était resté en France. Elle lui écrivit jusqu'à sa mort, à la mort de son mari. Et ses lettres composent le journal de voyage qu'on a publié plus tard. Elle aussi s'était convertie au bouddhisme. Après plus de 30 ans de séjour en Asie, elle finit par rentrer en 1946, âgée de 78 ans, nantie d'une extraordinaire documentation, surtout photographique, qu'on peut voir aujourd'hui dans sa maison-musée de Digne. Je pourrais multiplier les exemples bien connus grâce aux livres de Dee Birkett et de Barbara Hodgson. Étaient-elles de vraies aventurières au sens où Henri de Montfred l'entendait? Non, pas vraiment. Il leur fallait un objectif, une justification, une activité. Faire des fouilles archéologiques, comme Jeanne Dieu la Foi, la femme habillée en homme, qui avec son mari, à la fin du XIXe siècle, découvrit la fresque des archers assyriens, aujourd'hui au Louvre. Il leur fallait convertir, aider, enseigner, secourir, soigner, découvrir les autres. Entre les deux guerres, nombre de jeunes femmes furent séduites par l'ethnographie, démarche nouvelle, donc accessible aux femmes, comme au même moment la psychanalyse, où il y avait beaucoup de femmes également, la découverte du monde, la découverte de soi. Les femmes pouvaient parler aux femmes indigènes, comme Denise Griol en Afrique, Germaine Tillon en Afrique du Nord. On leur confiait souvent l'appareil photo, la photographie étant alors un genre mineur. Elles s'en emparèrent et certaines en firent un art, comme Margaret Bourke White ou Gisela Freund. Bien entendu, ces femmes voyageuses étaient minoritaires, mais elles ont ouvert des chemins nouveaux pour les femmes et pour tous. Je pense au rôle joué aujourd'hui par les femmes grands reporters, envoyées à leur demande, par les journaux ou les chaînes de télévision, partout dans le monde, y compris sur les théâtres de guerre les plus exposés. Je pense à Florence Aubenas, enlevée en Irak avec son guide irakien. À Florence Aubenas, je dédie modestement cette émission consacrée aux femmes voyageuses.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Paonneau.